I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Nous sommes samedi 4 décembre. Nous sommes toujours dans ce magnifique écrin qui est l'espace Jules Verne dans la maison d'ailleurs, ici à Yverdon. Et nous accueillons Alex. Bonjour à toi, bienvenue.
Bonjour, merci.
On est ravis de t'accueillir. Et de quoi allons-nous parler ? Eh bien du quartier libre, espace de lutte, d'accueil, de solidarité et d'expérimentation anticapitaliste à Yverdon. Donc les informations, on peut voir un petit peu ce qu'il en est, ce sur quoi on va d'ailleurs te questionner, sur Insta, c'est plutôt Instagram. Alors, y a-t-il une adresse sur Instagram qui nous permet de nous y rendre ? Et puis, y a-t-il d'autres sites internet ou sur les réseaux ? Êtes-vous présent ailleurs ?
On a deux moyens de communication particuliers pour, entre guillemets, le grand public. Du coup, Instagram, effectivement, comme tu disais, avec du coup le nom Quartier Libre, tout attaché, _ Clindy. Donc, _, c'est le tiré du bas, pour les personnes qui ne savent pas forcément le nom. Et on a un canal Telegram aussi qu'on peut rejoindre, où il y a les infos, la programmation, etc. Du coup, qui est t.me/q_viv. Les deux canaux principaux d'information pour suivre un peu ce qu'on fait.
Nous, on les mettra au libellé du podcast, c'est plus facile de cliquer dessus.
Parfait.
Alors, vous avez occupé, il y a de cela quelques mois, un morceau de la ville d'Yverdon. Est-ce audacieux ? Est-ce téméraire ? Raconte-nous un petit peu comment est-ce que vous vous sentez ?
Effectivement, c'est un projet audacieux parce qu'on porte un projet politique qui est assez complexe, à vrai dire. Et on se met dans une situation compliquée puisqu'on est hors la loi. On occupe des bâtiments qui sont laissés à l'abandon depuis un moment déjà et qui vont être détruits, en toute logique, pour un nouveau projet immobilier. Et donc l'idée, c'était d'utiliser cet espace-là, le temps qu'on peut, pour porter les luttes qu'on veut porter, les faire exister aussi en du coup créant ce lieu et en l'ouvrant à tout le monde.
Pour mettre en pratique des valeurs qui vous habitent.
Voilà, c'est ça.
D'une certaine manière. Alors, on va essayer d'éviter les questions indiscrètes, qu'il en soit. Si tu sens qu'elles le sont, eh bien, tu n'y réponds tout simplement pas.
Ouais.
Évidemment, ça tombe sous le sens de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Quelles étaient vos intentions au départ, y compris le projet de rester, de vivre éventuellement sur place, tout ça pour les personnes qui vont commencer à écouter ces propos-là et qui n'ont jamais entendu parler du quartier libre et de Clindy dessous. Pourrais-tu nous localiser cet endroit-là et nous en faire une description sommaire ?
Je vais commencer par répondre aux intentions, quel projet. Donc, par cette occupation, on voudrait porter les questionnements sur l'urbanisme, comment on imagine la ville, comment on vit la ville. Parce que là, du coup, il y a des nouvelles lois qui disent que pour éviter le mitage, on va densifier les villes. Les politiques ont pris à corps ça, mais de la manière qu'on pense vraiment pas adéquate, puisqu'en fait, on va urbaniser en bétonnant, en rasant des anciens quartiers, en bétonnant plein d'espaces pour densifier, juste dans l'optique de densifier, sans considération vraiment écologique derrière, ni solidaire, ni sociale. Et donc, on vient dire, en fait, on n'a pas juste l'opposition binaire, mitage, densification des villes. On a en fait d'autres possibilités d'habiter la ville pour éviter la gentrification, pour éviter par exemple qu'il y ait une partie du parc privé qui soit laissée vide alors que des gens dorment dans la rue. Bref, il y a plein de d'autres manières en fait de coexister et de vivre qui sont à la fois écologiques et solidaires et qui ne sont pas juste... densifions pour densifier, en fait.
Oui. Tu as nommé le mot gentrification.
Oui.
Tu as également sous-entendu qu'il y avait de la spéculation immobilière. Voudrais-tu nous expliquer ce que signifient ces deux concepts ?
Oui, tout à fait. Je vais commencer par le deuxième parce que je trouve plus simple à expliquer. Mais on va, du coup, enfin, il y a une partie du parc immobilier privé qui est laissée vide pour, avoir un marché qui est moins ouvert. Et du coup, faire monter les prix de ce qui va être mis en vente autre part.
Oui.
Et ça peut être des... À Yverdon, par exemple, il y a environ 150 logements qui sont laissés vides. Et justement, les 150 logements, c'est à peu près le but de ce nouveau projet immobilier. Il y a des villes, en France, par exemple, où il y a 10%, 15% du parc qui est laissé vide. alors que bah, des gens dorment dans la rue, des gens s'entassent parfois dans des logements extrêmement insalubres et exigus. Et en fait, on a largement la place en fait, de loger tout le monde. C'est juste qu'il faut changer de paradigme et d'idée et pas ériger la propriété privée et la spéculation financière sur le marché immobilier comme moyen de fonctionner. La gentrification, c'est en gros dire, bah voilà, on va avoir un quartier en fait où bah, par des aménagements qui peuvent être très divers, ça peut être culturel, ça peut être commercial, ça peut être des aménagements d'espace vert, on va en fait augmenter entre guillemets la valeur de l'endroit et du coup les populations les plus précaires, puisque ça va de pair avec une augmentation du loyer, vont devoir quitter ces lieux-là et en général aller plus en périphérie. Ça, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Oui, c'est un quartier voilà. Dans la ville, il est proche de la ligne de chemin de fer, elle passe juste à côté. Il y a en fait un mix en fait, des immeubles qui ne sont pas très grands, de 5-6 étages, et des maisons. C'est relativement mixte, je dirais, dans la population qui est là.
Alors, ça fait maintenant un mois et demi que vous y êtes. Dis-moi, quels ont été les retours au début et quels sont-ils maintenant? Et alors, cette question, elle a trois volets. C'est des retours des gens, voisins, voisines, etc. Les retours des médias, est-ce que des gens s'y sont intéressés, de quelle manière l'ont-ils fait, honnêtement ou pas? Et le troisième volet, c'est de la classe politique, les institutions, tout ça. Comment est-ce que, voilà, est-ce que la police vous surveille? Est-ce qu'on vous met la pression? Ou est-ce qu'on est plutôt dans la négociation et le dialogue?
Alors, pour les voisins et les voisines du quartier, du coup, ça a été... pendant le premier week-end, le week-end d'installation, un axe très fort justement de ce qu'on voulait faire, c'est se présenter, dire le projet, genre faire du bien avec ces personnes, discuter, etc. Et donc ça s'est plutôt bien passé. On a plutôt eu un bon lien avec les voisins et les voisines. On nous a souvent rétorqué que le fond était tout à fait louable, mais la forme de l'occupation n'était pas forcément adaptée, ce qui est compréhensible quand on milite pas beaucoup, mais dès qu'on rentre un peu en fait dans le militantisme ou la politique, on se rend compte que bah, toutes les autres formes ont déjà été épuisées pardon, depuis des années et qu'en fait on essaie justement de créer de nouvelles formes de contestation parce que, enfin de nouvelles, il y a déjà eu plein d'occupations avant, mais d'autres formes de contestation moins institutionnelles parce que en fait les autres concrètement ne marchent pas. Donc on a certains voisins, certaines voisines avec qui on s'entend vraiment très bien, on a des très bons liens, qui sont très contents qu'on soit là, qui trouvent qu'on donne une vie au quartier, qu'on est très sympathique en plus, donc c'est plutôt cool. Et d'autres qui vont du coup plutôt avoir un regard assez distant sans trop interagir avec nous, mais pas nécessairement négatif. Et après, il y a d'autres personnes, notamment certains des propriétaires qui ont porté plainte contre nous, qui sont du coup assez dans l'opposition, avec qui on a essayé de dialoguer, avec qui on a réussi à dialoguer parfois, mais qui là... voilà, sont dans une logique vraiment de droit à la propriété privée, et que du coup, on interfère avec ça et qu'on doit partir. Ensuite, les politiques de la ville, on a eu des personnes du monde politique du Verdon en particulier qui sont passées de différents bords, qui nous soutiennent ou pas, c'est assez large. La co-syndic de la ville, au début, était très contre nous, et après certaines discussions, c'est plutôt rangé de notre côté. Mais globalement, voilà, on a quand même des interactions assez souvent avec quelques personnes du conseil, mais pas des liens très forts forcément. C'est pas non plus le public qu'on vise. Et d'accord. Ensuite, les médias ont plutôt bien suivi. On a pas mal contacté de médias et du coup, on a eu beaucoup de réponses. Et donc des personnes qui sont venues nous voir, qui ont discuté avec nous, qui ont filmé, pris des photos parfois. Les résultats sont assez mitigés, ça dépend beaucoup du média et parfois bah, on parle une heure de plein de choses et en fait forcément ce qui sort c'est les 3 minutes hors contexte de choses qui ne représentent pas vraiment ce qu'on fait, donc c'est un peu dommage.
Nous on a cherché à créer des synergies, à créer des ponts, à créer des... est-ce que ça te fait quelque chose ou ça vous fait quelque chose qu'on soit à la maison d'ailleurs aujourd'hui?
Alors moi ici c'est un lieu que je connaissais pas du tout parce que je suis pas d'Yverdon, ça je pense que je peux le dire sans problème, et je suis assez content de découvrir ce lieu, c'est plutôt joli, j'aime bien l'ambiance un peu steampunk parfois qui se dégage.
Donc c'est musée de la science-fiction et des mondes utopiques.
Ouais, et je trouve ça drôle, j'ai écouté avec intérêt la discussion qu'il y a eu tout à l'heure, Et je trouve ça effectivement assez marrant d'avoir à la fois un musée qui parle de l'utopie et à la fois un endroit à 10 minutes à pied où justement il y a une construction d'une certaine utopie, ou en tout cas on essaie de faire vivre, donner corps à une certaine utopie.
Ah, effectivement. Alors quel est-il ce corps auquel vous tentez de donner vie? Voilà, à quoi passez-vous vos journées? Est-ce que c'est la bande de gars, de filles et de garçons oisives qui passent leur temps à boire des coups? Ou est-ce que les activités affluent? Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est qu'en est-il des alliances? Y a-t-il des alliés avec lesquels vous échangez? Ça pourrait être des ZAD, ça pourrait être des squats également, ou tout simplement des centres culturels.
Alors effectivement, genre dans les journées en fait passent très vite parce qu'il y a 1000 choses à faire tous les jours, rien que pour faire vivre en fait le collectif. On fait beaucoup de récup, par exemple. On fait beaucoup la cuisine, on travaille sur l'aménagement, sur le ménage. Il y a toutes les discussions qu'on a, à la fois politiques et de fonctionnement, qui prennent énormément de temps en fait. Les réflexions sur nos dynamiques individuelles et collectives, tout ce qui concerne le sexisme, le validisme, la manière dont on envisage les relations, par exemple. En fait, l'autogestion, c'est une part du projet politique et c'est une part qui prend énormément de temps parce que aussi c'est quelque chose qui est en train de se construire, parce que c'est un processus en cours et qu'on n'est pas du tout fonctionnel sur tous les aspects. Il y a aussi bien sûr toute la programmation, la communication sur les événements qu'on propose, qui est une grosse charge, le jardin qu'on essaie de faire vivre malgré l'hiver. Il y a aussi, on a mis en place un magasin gratuit, donc il faut gérer ce magasin-là. Il y a une gratuiterie dehors avec de la nourriture qu'on récupère et qu'on ne va pas utiliser pour que les personnes qui passent puissent la prendre. Le fait de faire du lien avec les voisins et les voisines aussi, c'est bien sûr un travail en soi. Travailler sur des aspects légaux, puisque encore une fois, l'occupation est illégale et on court des risques juridiques assez conséquents. Voilà, produire du contenu politique, se politiser entre nous, tout ça, c'est en fait énormément de travail et c'est assez justement drôle que souvent l'imaginaire qu'on a, en tout cas qu'on nous renvoie du squat ou des ZAD, c'est genre un peu, bah, c'est la bamboche, c'est la fête, etc. Alors que il y a beaucoup, enfin, personnellement, je travaille beaucoup plus maintenant, par exemple, que dans mon travail avant où j'étais payé. Et là, je suis pas payé. Ouais. C'est franchement pas du tout la fun.
C'est intéressant de le dire et de le redire.
Ouais, carrément, ouais. Ouais.
On peut parler d'une certaine manière d'un laboratoire de vie.
Oui, complètement. Et puis, bah voilà, où il y a beaucoup de réflexions sur comment on vit ensemble, notamment comment on prend soin des uns des autres, par exemple, ce qui prend beaucoup de temps, surtout dans des aspects où il y a une forme de répression. Parce qu'on abordait la répression tout à l'heure, j'ai pas trop répondu dessus, mais où il y a le risque juridique qui est assez fort. On a eu 2 menaces d'évacuation où on a dû du coup évacuer complètement les lieux. Donc forcément, c'est fatigant, ça met du stress. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là où on essaie d'imaginer ensemble, de proposer des choses, de tester des choses parfois qui ne marchent pas, et du coup d'en tester d'autres sur les dynamiques de décision collective, les dynamiques de pouvoir qui se jouent, etc.
Alors justement, j'allais te questionner sur les décisions collectives, comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on passe par le vote? Est-ce qu'on passe par le consensus? Ça veut dire qu'on suit une discussion au préalable? Et puis surtout, ce qui est souvent assez emblématique d'une manière de fonctionner, c'est qu'en est-il, que fait-on des désaccords?
Alors dans les prises de décision collectives et comment est-ce qu'on gère les désaccords, on a plusieurs outils. Donc déjà, on fait souvent des plénières, donc 2 ou 3 fois par semaine, c'est-à-dire un endroit où toutes les personnes qui sont sur le lieu se réunissent et discutent, soit de sujets de la vie courante, soit de projets d'aménagement, soit de groupes de travail sur les événements, par exemple, enfin, un peu plein de choses. Et en fait, on fonctionne beaucoup par groupe de travail, c'est-à-dire par exemple sur la communication, il va y avoir un groupe de travail qui va se monter. Donc tous les groupes sont ouverts, les personnes peuvent les rejoindre, en partir, etc., il n'y a pas de souci. Et on va avoir 2 formes de groupes de travail, des formes de travail qui vont être propositionnelles, qui vont se réunir, discuter et sortir une proposition, par exemple, genre « Ah bah on aimerait organiser ça à tel jour, ça à tel jour, etc. » Et ensuite, en plénière, justement, on va décider de si oui ou non. Et ensuite, il y a des groupes de travail qui vont être plus décisionnels, si ce n'est pas des choses qui impactent très fondamentalement la vie du quotidien. On peut dire que oui, on peut accrocher les poils là, par exemple, c'est pas besoin de le dire en plénière tous ensemble. Et donc il y a des groupes de travail, qui vont avoir le pouvoir de décision. Donc au maximum, on essaie d'avoir des décisions tout le monde ensemble, ce qui est bien compliqué dans les faits, puisque déjà il y a l'urgence qui fait que parfois on est obligé de prendre des décisions sans prendre le temps de consulter tout le monde. Aussi, il y a beaucoup de gens qui sont de passage, qui viennent quelques jours, qui repartent. Donc quand on prend des décisions et que ces personnes-là ne sont pas là, elles vont être impactées même si elles n'ont pas pu être là. Donc c'est assez compliqué. Et d'autant que les transmissions d'infos sont aussi assez compliquées, puisqu'il y a encore une fois ce va-et-vient, etc. Donc on fait au mieux de prendre des décisions tous ensemble, mais bien sûr c'est dans les faits dur, surtout que la répression, les courriers de la justice qu'on reçoit, etc., ça amène une forme de tension, du coup, qui peut aussi créer des dynamiques interpersonnelles assez compliquées à gérer. Parce que tu parlais du coup des désaccords. On peut avoir parfois des critiques qui seraient très bien prises dans un autre cadre, qui là, du coup, vont être prises comme crispation, etc. Enfin bref, on subit une forme de violence de la police et de la justice qui nous affecte forcément.
Bien sûr, bien sûr.
Donc là, gérer les désaccords, c'est tout un pan aussi du travail qu'on fait, justement.
Ouais. Vote ou consensus ?
En général, on fait un consensus.
Ouais.
C'est-à-dire que si une personne n'est pas d'accord, on en discute et on essaie d'écouter les points de vue différents et de trouver une solution qui convient à tout le monde. Ça, c'est la base de nos systèmes de décision.
Ce qui est intéressant, c'est évidemment, c'est pas le résultat au quotidien, puisqu'il évolue, mais c'est ce questionnement permanent qui rejoint la notion de ce qu'on disait tout à l'heure avec cette notion de laboratoire et de tentative, de questionnement, d'autocritique. Et effectivement, on imagine bien le travail que c'est dès lors que c'est collectif et horizontal. Tu ne nous as pas dit si effectivement des alliances se forgeaient d'ores et déjà, si avec d'autres, que ce soit des ZAD, passées, présentes, vous échangez, vous échangez également avec des centres culturels ou voilà.
Bah effectivement, il y a beaucoup de collectifs qui viennent nous voir. Il y a des personnes qui ont un collectif de personnes du Rojava, par exemple. Il y a des personnes du mouvement zapatiste qui sont venues. Il y a le quartier libre des Lentillères qui est venu. Il y a des gens d'autres ZAD.
À Dijon.
Exactement, pardon.
Ouais.
À Dijon, en France. Il y a d'autres, des gens qui viennent comme ça pour venir, pour discuter, pour découvrir le lieu, partager leur expérience et potentiellement leurs ressources. Et donc, on a beaucoup d'échanges qui se concrétise pas. Le terme d'alliance me paraît un peu étonnant parce que ça, c'est pas forcément quelque chose de durable. Ça peut être juste, ils viennent une fois nous voir, on discute, c'est hyper sympa, on partage plein de trucs et deux jours après ils repartent. Mais il y a pas mal de gens quand même qui viennent nous voir. Ouais.
Est-ce que c'est possible de nous faire une visite un petit peu racontée des infrastructures du lieu lorsque l'on y déambule comme ça? Qu'est-ce qu'on y découvre?
Je vais essayer de faire une description du lieu. Donc, on a la rue de Clandy qui borde le terrain qu'on occupe. Donc, il y a deux parcelles de jardin et deux bâtiments. Donc, si on rentre par le jardin, il y a une table d'accueil juste à côté de la grattruterie où on met du coup la nourriture et quelques objets qu'on récupère et dont on ne sert pas. Du coup, il y a quelques flyers, etc. Et puis derrière, le jardin qu'on a aménagé avec plein de plantes qu'on a mises pendant le mois dernier d'occupation et qui prennent gentiment froid. Il y a un châtaignier qu'on a planté qui est un peu l'emblème du quartier. Au fond, des toilettes sèches avec un compost, malheureusement, qu'on n'aura sûrement pas le temps d'utiliser vu les échéances. Et donc, à droite de jardin, il y a une grande maison qui sert de maison d'habitation, donc que je ne décrirai pas plus en détail. Et à gauche, il y a le bâtiment un peu principal, on va dire, où en fait il y a donc l'espace qu'on appelle la marmite, qui est le rez-de-chaussée, qui est un énorme espace qui était du coup encore une fois laissé vide et qu'on ouvre à tout le monde. Donc c'est là où on organise les événements qu'on fait, qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on travaille, où on fait des réunions. Et puis là où on fait donc tous les événements, les projections de films, les concerts, les discussions, les bouffes pop, enfin bref, un peu tout ça. Et au-dessus de cet endroit-là, il y a à nouveau un appartement qui sert d'habitation. Pour les personnes qui restent.
Utopie et habitat, utopie concrète en l'occurrence. Alors, tu l'as dit, un des travaux auxquels vous vous attelez, c'est de communiquer avec les voisines et les voisins. Peut-être y a-t-il des gens de passage qui sont un petit peu sceptiques ou des gens qui vous observent de loin, un œil mi-clos et un petit peu, tu vois, comme ça. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à ces personnes-là? Entre, viens, je te montre, viens, on parle, comment ça se passe?
Bah oui, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est tout le but de ce qu'on a construit. En fait, on comprend effectivement le scepticisme, puisque c'est pas quelque chose qui est très commun, en fait.
Oui.
À la fois par le discours politique qu'on porte et à la fois par la forme d'action. Et donc, en fait, ce qu'on invite, c'est effectivement de venir discuter avec nous. En fait, l'espace qu'on a créé, c'est justement pour proposer un espace pour s'exprimer et échanger. et en fait de passer au-delà des préjugés. Enfin, on est là pour porter quand même un projet politique derrière, dans le sens où voilà, on a un mode de vie qui est différent de ce qui est considéré comme la norme, mais justement en fait on veut expliquer pourquoi on l'a et pourquoi, ce que ça veut dire, parce que tout ce qu'on fait en fait est politique intimement dans la vie de tous les jours, etc. Et donc voilà, ça peut paraître dérisoire en fait cette occupation face au projet qu'on porte, anticapitaliste, écologiste, antisexiste, enfin plein de choses. Mais voilà, dans les discussions avec... en fait, ici, déjà, il y a beaucoup qui se joue dans la construction du collectif, dans les discussions qu'on propose avec les gens qui viennent nous voir pour le collectif, pour le contenu politique qu'on produit. Et donc, en fait, effectivement, on ne va pas changer le système juste par cette occupation, mais on propose en fait de réfléchir ensemble à co-créer, à imaginer des espaces et à imaginer la vie collective. Et en fait, comment construire ce quartier en fait pour ses habitants et pas pour les promoteurs et les promotrices immobilières. Et donc voilà, on crée aussi des liens de solidarité, on sort des logiques marchandes avec les magasins gratuits, etc. Enfin bref, voilà, il y a effectivement plein de choses qu'on essaie de mettre en place, en fait, qui sont très concrètes. Offrir un espace d'accueil, il y a des gens qui dorment à la rue, des choses dans le genre. Et donc voilà, effectivement, je comprends le scepticisme dans le sens où c'est une forme qui est très souvent connue, enfin, qui est très méconnue, en fait, d'action.
Oui, oui.
Et qui est liée à plein de préjugés, mais... Le mieux, c'est de venir voir par soi-même, voilà. Et de discuter avec nous. Quoi.
En tout cas, de votre côté, vous êtes ouvert et accueillant et bienveillante et bienveillant. Un passage au tribunal récemment avec un pique-nique de soutien, un goûter de soutien, pardon. Alors, qu'en est-il et que pourrait-il advenir? Parce que tu parlais tout à l'heure de délai et de... Voilà. Voilà, maintenant et demain.
Du coup, effectivement, passage au tribunal, il y a un peu plus de 15 jours, donc on... En fait, on a eu des mesures super provisionnelles qui ont été prises contre nous et donc qui n'ont pas donné lieu à une expulsion, donc ce qui est assez paradoxal. Mais en tout cas, l'audience portait sur une demande de mesures provisionnelles demandée par les proprios, c'est-à-dire qu'il y a eu une plainte de la part des proprios.
Voilà, juste mesures super provisionnelles, vous devriez dire en deux mots pour... Enfin, ouais. Parce que c'est déjà un régime d'exception, pourrait-on dire.
Oui, alors ouais. Effectivement, c'est un régime d'exception qui est assez récent, si mes connaissances juridiques sont bonnes, ce qui n'est pas forcément le cas, je préviens... disclaimer là-dessus, mais en gros, c'est un régime en fait qui permet une expulsion par exemple sans qu'on ait le droit de se défendre en fait.
Oui.
Et donc normalement, elle est légitime dans le cas d'un sévice, comment on appelle ça, d'un préjudice, voilà, qui soit absolument irréparable. Et donc, ce qui n'a pas vraiment lieu d'être ici, puisque les bâtiments vont être détruits en fait et qu'on les casse pas en plus. Le jardin typiquement a été largement embelli depuis qu'il est sorti de sa friche et qu'on a mis des choses dessus. Et donc voilà, et donc là, les mesures provisionnelles demandées par les propriétaires, on attend encore la décision de la juge. Donc, décision qui sera très probablement une expulsion, mais avec sans doute des quelques jours de délai pour plier les bagages.
D'accord, donc vous êtes en attente en fait de. D'une réponse qui risque d'être un petit peu décevante ou problématique.
Voilà.
Ou y a-t-il moyen d'avoir de l'espoir et puis de se dire quelque chose d'autre pourrait survenir?
Alors, il y a toujours moyen d'avoir de l'espoir, mais disons qu'en étant purement réaliste, le jour du jugement, on nous a prévenu le matin même qu'en fait, une personne de nous devait être présente au jugement. Donc, on a dû s'organiser un peu en urgence là-dedans. Et en fait, la personne en question n'a pas pu rentrer puisque... pour des raisons évidentes, ne pouvait pas donner son identité. Donc, il y a eu, en fait, pendant le jugement, une grosse partie qui était là-dessus. Et une petite anecdote qui est assez drôle, c'est que la juge a demandé au seul propriétaire qui a porté plainte contre nous, qui était présent, « Vous, monsieur, vous avez dû donner votre identité ?» Et donc, la personne a répondu « Non ». Et donc, c'était très drôle. Donc, la juge a porté en mode « Bon, montrez-la-moi tout de suite, et puis ça ira. » Et donc, il y avait un peu ce rapport complètement différent entre genre, les accusés et les accusants, dans le sens où on avait un peu le sentiment d'une partialité là-dessus,
par exemple. Il y a une dissymétrie, là, de nouveau, qui, pour nous, voilà, on dit long de la justice classiste qui règne. Enfin, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. On arrive au terme de cet entretien. Nous allons poursuivre en faisant une lecture du cercle de lecture sociale sur place. Mais avant ça, j'aurais encore voulu terminer, à moins que les campas ici aient des questions. Pas pour le moment. Alors, en te remerciant encore beaucoup. Voilà, de quoi auriez-vous besoin? Y a-t-il des appels que l'on pourrait lancer, relayer? Et puis ensuite, on fera juste le rappel des contacts et tout et tout.
Eh ben déjà, merci de l'invitation et c'est hyper cool d'avoir cette tribune. Ensuite, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand les gens viennent voir ce qu'on fait, viennent prendre part aux activités. Après, effectivement, on a parfois des besoins matériels qu'on essaie de publier régulièrement, des choses qu'on peut pas récupérer dans les poubelles des supermarchés, par exemple. Donc ça, c'est un peu le point central, et puis même des contacts avec des gens de la presse, etc., pour essayer de visibiliser un peu ce qu'on fait ici, et puis de donner une certaine forme de relais. Mais je pense que le premier aspect, c'est de venir nous voir et voir ce qu'on fait, quoi.
Voilà. Et pour celles et ceux qui peuvent pas, pour mille et une raisons, ces personnes peuvent se tenir informées via, on rappelle les adresses de contact.
Exactement. Donc sur Instagram, avec quartierlibre_clandy. Et il y a un canal Telegram d'information, donc t.me/q_viv.
Alex, je te remercie beaucoup et à tout à l'heure.
Et ben, merci beaucoup à toi.
Ciao.